faudrait peut-être reprendre le travail. Il n'y a pas trop de choix, quoi. Essayer de refouler un petit peu de l'argent sur nos comptes et après recommencer dans un mois ou deux, parce que bon, il y en a qui ont perdu de l'argent quand même.
Des grévistes usés après 45 jours de conflit, l'UNSA annonce la reprise du travail dans le métro à Paris.
Moins de grévistes, mais plus d'actions, coup de poing, de quoi inquiéter les autorités, nous dira Adrien Beck.
Le Mexit est consommé, Harry et son épouse doivent renoncer à leur titre et à un gros budget. Les sujets de la reine Elisabeth sont perplexes.
C'est la jeune génération. Ils devraient être la nouvelle voix de la royauté. C'est bizarre qu'ils partent.
Et puis enfin,
et de la jolie lingerie pour toutes les morphologies. Il a fallu attendre 2020 pour satisfaire une grande partie des Françaises.
La beauté, c'est pas une taille 38-40. La beauté, c'est une femme qui se sent bien dans son corps, qui se sent bien dans sa tête.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les grévistes accusent le coup, ils sont fatigués, financièrement étranglés après 45 jours de grève.
Et c'est pour cela que l'UNSA, qui est le premier syndicat à la RATP, appelle à une suspension du mouvement pour reprendre des forces.
Mais tout en cherchant des moyens innovants pour rester mobilisés, reportage avec des conducteurs de bus épuisés mais déterminés, Nicolas Feldman.
Je pense que c'est une pause, c'est pas fini.
Devant le terminus de la porte de Saint-Cloud, Claudie vient de garer son bus vert de la RATP. Comme le sien, cinq autres stationnent avant de repartir. Il règne ici comme des allures de fin de grève. La conductrice y voit plutôt une réorganisation des troupes.
Bah, je ne sais pas si vraiment on a obtenu ce qu'on voulait, mais je pense qu'il faudrait peut-être reprendre le travail. Il n'y a pas trop de choix, quoi. Essayer de refouler un petit peu de l'argent sur nos comptes et après recommencer dans un mois ou deux, parce que bon, il y en a qui ont perdu de l'argent quand même, beaucoup d'argent.
Vincent, par exemple, 25 jours de grève depuis le début du mouvement, il y a un mois et demi.
La prochaine paye, elle va faire mal, quoi. On verra sur la fiche de paye, je n'ai pas eu encore. Il va me rester quoi, 200 euros.
Mais après tant de sacrifices, pour lui, pas question d'abandonner.
Non, on rentre pas dans l'an. Non, il y aura des opérations quand les agents seront en repos ou avec les étudiants, les médecins, tous ceux qui sont encore en grève, faire des blocages, trucs comme ça.
Une stratégie pour rester mobilisé lors des grandes journées d'action. Cela commence dès vendredi, jour de la présentation du projet de loi retraite en Conseil des ministres.
Nicolas Feldman pour Europe 1. Et côté trafic, voilà ce que ça va donner demain. 12 lignes de métro sur 16 fonctionneront normalement, ainsi que le RER A. Quelques perturbations encore sur les lignes 5 et 13 et sur le RER B. Une grève qui a toujours le soutien des Français. On lit ce matin dans le JDD que 50% des Français restent opposés à la réforme des retraites.
On vient de l'entendre, les opposants restent mobilisés malgré la fatigue et les fins de mois difficiles. Certes, il y a moins de grévistes et moins de monde lors des manifestations, mais le mouvement a pris un tournant.
Qui ressemble à des opérations coup de poing menées ici ou là par de petits groupes, comme l'intrusion au siège de la CFDT ou encore à la sortie du théâtre pour Emmanuel Macron, où il assistait à une représentation, des actions inattendues et donc plus difficiles à maîtriser. De quoi inquiéter la majorité, Adrien Beck.
Je ne veux pas revivre ce qu'on a subi il y a un an. Tout ceci est terriblement inquiétant. Voilà l'aveu d'un responsable de la majorité. Car ces derniers jours, les actions s'accumulent contre les membres de l'exécutif. Emmanuel Macron attendu par des manifestants devant un théâtre parisien. Des ministres en visite à Perpignan coursés par des contestataires. Ou encore les vœux du ministre de la Culture prévus lundi, tout simplement annulés par crainte d'une action de la CGT. Plusieurs députés ont eux aussi dû annuler des cérémonies de vœux. Avec la décrue du mouvement, les opposants veulent faire du symbolique, constatait un ministre cette semaine. Ce sont des radicaux très peu nombreux qui essaient de compenser leur faible représentativité par la culture du coup, assure-t-on dans l'entourage d'Édouard Philippe. Au sein de l'exécutif, on est conscient qu'aucune négociation n'est possible avec ces militants. Alors, comment agir ? À Matignon, on assure que des consignes de tolérance zéro ont été transmises aux responsables de l'ordre public. Mais à part des condamnations pour les plus violents et des rappels à la loi, confie un cadre marcheur. Je ne vois pas ce qu'on peut faire.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Mais parfois la grogne se fait en douceur. Hier, les musiciens et les chanteurs de l'Opéra de Paris ont une nouvelle fois offert un concert en plein air.
Sur des airs connus, la Marche des Troyens, ça s'est signé Berlioz, Carmen de Bizet ou encore Verdi et la Marseillaise.
La politique, on y reste. Les municipales, c'est dans deux mois et à Paris, la bataille a débuté.
Cette semaine, Anne Hidalgo est entrée en campagne et dans un sondage publié ce matin dans le JDD, la maire sortante est en tête des intentions de vote au premier tour avec 25%. Le rôle de première opposante revient à Rachida Dati, créditée de 19%. La maire LR du 7e devance Benjamin Griveaux, qui est 15 à 15%, devant l'écologiste David Belliard, 14%, et Cédric Villani, 13%.
Désormais, on les appellera Meghan et Harry tout court. C'est officiel, le couple doit renoncer à son titre royal.
Plus de duc ou du duchesse de ce sexe qui tiennent. Buckingham l'a annoncé hier soir, ça signe la fin de tout rôle officiel au nom de la couronne. Harry et Meghan cesseront également de recevoir des fonds publics. La reine qui a au passage souhaité bonne chance à son petit-fils préféré. Mais qu'en disent justement les sujets de Sa Majesté et les journaux anglais? On voit ça avec Johanna Chabas.
La reine a choisi un Mexique dur. C'est la une des journaux britanniques ce matin sur le départ acté du couple. Plus de titres, plus d'argent public, plus de cérémonie officielle. Yazan est ravi.
S'ils ne veulent plus assumer leurs obligations royales, alors moi je suis content qu'ils renoncent à leurs titres et à leurs privilèges, comme celui d'utiliser l'argent du contribuable qui est donné à la famille royale.
Le couple peut tout de même garder sa résidence. Elle avait été rénovée avec de l'argent public à hauteur de 2,4 millions de livres. Harry et Meghan s'engagent à rembourser. Une bonne chose selon Chris.
Je me dis juste que s'ils peuvent se le permettre, ça fera plus d'argent pour nos dépenses publiques. Alors tant mieux pour eux, cela leur donne une meilleure image avec tout le monde.
Il est aussi content que ce communiqué mette fin au feuilleton Harry et Meghan. Mais pour Graham, c'est aussi la fin de la modernité dans la famille royale.
C'est la jeune génération. Ils devraient être la nouvelle voix de la royauté. C'est bizarre qu'ils partent. On se dit qu'ils devraient continuer d'assumer leurs obligations royales.
Un point reste encore à éclaircir, la sécurité du couple. À quoi va-t-elle ressembler? Qui va la financer? En tout cas, tous ces changements seront effectifs dans quelques mois, au printemps. Londres, Johanna Chabas, Europe 1.
Et à l'étranger, toujours 17e cas du mystérieux virus qui est apparu en Chine à Wuhan. Les autorités s'inquiètent parce qu'il est de la même famille que le SRAS, donc très contagieux. Or, les Chinois fêtent le nouvel an dans quelques jours et risquent de se déplacer en masse.
Alors, vous allez rester avec nous et vous allez voir pourquoi. Dans un instant, nous parlerons lingerie. Elle s'adapte aujourd'hui, cette lingerie, à toutes les morphologies.
8h07 sur Europe 1. Retour de l'actualité avec Lénaïque Monnier et François Geffrier.
On va faire dans la dentelle à présent. Ronde ou pas, chacune aujourd'hui peut trouver son bonheur en matière de lingerie.
C'est même un argument de vente puisque la taille moyenne des Françaises, c'est plus 40-42 que le petit 36. Mmh. Et pour la lingerie, c'est la même chose. Alors certains créateurs ont pensé à celles qui ont des formes et qui veulent de jolis dessous. Reportage Jean-Jacques Héry.
Quand on regarde la photo, on a tout de suite compris que nous, le message qu'on veut dire, c'est que oui, vous êtes belles, mesdames, quelles que soient vos rondeurs, quelles que soient vos maigreurs.
Sur certains stands du salon, les exposants vous le promettent, les mannequins filiformes en lingerie sur papier glacé, c'est presque terminé. Sophie Knis est directrice marketing chez Wacol. Ces dernières années, dit-elle, leurs publicités ont bien changé.
On utilise aussi pour nos photos et pour la communication des mannequins qui sont vraiment des mannequins voluptueuses, rondes, qui ont des rondeurs et qui les assument. Parce qu'encore une fois, la beauté, c'est pas une taille 38-40, la beauté, c'est une femme qui se sent bien dans son corps, qui se sent bien dans sa tête.
Au stand Simone Perel, on se félicite d'un changement intervenu il y a un an ou deux. La lame de fond sociétale qui a fait émerger hashtag MeToo a tout changé, y compris pour les marques de lingerie, raconte Hélène Mourdon, directrice communication de la marque.
C'était quelque chose qui était un peu frustrant, je pense, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, de ne pas pouvoir justement s'adresser à toutes ces femmes parce qu'il y avait ce diktat de la beauté qui sont en train d'évoluer et on peut enfin se projeter sur plein de morphologies différentes. On a envie de pousser ces femmes qui projettent une image de la femme qui est en train d'évoluer.
Mais avoir les images de mannequins à la plastique parfaite, toujours placardées dans certaines allées, on se dit que la nouvelle donne n'a pas encore touché tous les créateurs.
Ni certains magazines de mode, le salon de la lingerie pour toutes, c'est jusqu'à demain à Paris.
Comme quoi sur Europe 1, vous avez les dessous de l'actualité et l'actualité des dessous. Le palmarès du festival de l'Alpe d'Huez, c'est un festival qui souvent est culotté. Il a été dévoilé hier, il récompense les meilleures comédies.
Celles que vous irez voir en salle dans les prochains mois, le jury présidé cette année par José Garcia a remis donc ses prix en plébiscitant deux film très différent, Mathieu Charrier.
Une comédie pop-corn et une comédie sociétale. Le jury a fait le grand écart en remettant ses prix hier soir. La comédie pop-corn, c'est Divorce Club, signé Michael Youn, des femmes et des hommes en instance de divorce, qui organise une colloque dans une grande et belle villa de la Côte d'Azur. Évidemment, ça va dégénérer. Ce film repart avec le Grand Prix et le Prix de la Presse.
C'est des prix qui sont dédiés à tous ceux qui galèrent avec l'amour, tous ceux qui se sont fait larguer comme des vieilles chaussettes.
Et à l'opposé, mais toujours dans la comédie, il y a Tout nous sourit, Zilberstein et De Groot sont mariés, ils partent chacun au week-end avec leur maîtresse et amant, mais dans leur maison de campagne, commune, évidemment ça ne va pas très bien se passer, et c'est l'occasion d'un grand déballage en famille, aussi drôle qu'émouvant. Prix spécial du jury et double prix d'interprétation pour De Groot et Zilberstein.
C'est quand même fou quoi, de vivre ça. Et c'est vrai que le rire est proche des larmes de tristesse. Et c'est bon de pleurer après avoir ri.
Et d'arriver à faire rire et pleurer dans un même film, c'est le must.
Enfin, mine de rien, l'histoire de vieux mineurs qui veulent ouvrir un parc d'attractions dans leur ancienne mine pour la sauver de la destruction repart avec le très convoité prix du public. Au Festival de comédie de l'Alpe d'Huez, Mathieu Charrier, Europe 1.
Et les comédies en salle, ça marche. Quatrième au box-office français en 2019. Qu'est-ce qu'on a encore fait, au bon Dieu ? 6,7 millions d'entrées.
À 8h12, c'est toute l'info sportive avec Lénaïque Monnier.
Et la suite des 16e de finale en Coupe de France. Le PSG joue sa qualification à Lorient.
Et Thomas Tuchel va devoir faire tourner, pas qu'il en ait envie, mais parce que son infirmerie est remplie. Pas de Cavani, de Meunier, de Marquinhos, entre autres. Bernat est out lui aussi, comme quatre autres joueurs. De quoi entraîner Thomas Tuchel ?
Ça change beaucoup parce qu'on n'a pas de choses déchirées. On doit adapter maintenant la situation. Normalement, on aime beaucoup si on a tout le monde. On peut gérer des minutes. Maintenant, nous sommes forcés de faire ça avec les 16 joueurs qui sont là. C'est pas un problème du tout de trouver une 11 titulaire qui est fort et qui peut jouer fort, qui peut gagner. J'ai beaucoup confiance que nous sommes très forts demain. Mais je suis un peu inquiet d'utiliser de quelques joueurs trop parce qu'on n'a pas d'alternatives.
Thomas Tuchel avec Julien Froment. Le match débute à 20h55. Il est à suivre sur Europe 1. Au programme aussi, Atlético Marseille, club de 5e division face à Rennes.
Et puis hier, la fin du rêve pour la jeunesse sportive Saint-Pierroise.
Et oui, le petit poussé reprend l'avion direction La Réunion. Le club de 6e division battu hier à Épinal. Saint-Etienne et Nice se sont qualifiés, tout comme Strasbourg.
Le début demain de l'Open d'Australie de tennis dans un contexte particulier. Des incendies ont ravagé la région et depuis, l'atmosphère est très polluée.
Pas l'idéal pour jouer ou assister même au match, même si le tournoi prévoit d'interrompre les rencontres en cas de pic de particules toxiques. Mais même avec ça, pas de quoi rassurer Joe Wilfried Tsonga.
Ce qui est difficile, c'est de savoir où est la barre de l'acceptable et de l'inacceptable. À Pékin, où une fois, moi, j'ai fait un malaise sur le terrain. À Shanghai, voilà, on sait tous que c'est compliqué. À Paris, de temps en temps, les indices de l'air ne sont pas toujours au top non plus, à New York non plus. Donc, évidemment, c'est le métier de tout le monde. Il y a beaucoup d'enjeux économiques dans tout ça. Mais gardons un peu d'humanité et essayons, dans la limite du raisonnable, de prendre les bonnes décisions.
Joe Wilfried Tsonga avec Georges Homsi. Il jouera son premier tour face à un local, l'Australien Alexei Poprin, qui est de 14 ans son cadet.
Merci beaucoup, Lénaïque Monnier. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 9h.
Vous écoutez Europe 1, il est 8h14.